au réseau Cogeco. Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Alors oui, c'est le retour à Auto 360. Malheureusement, comme on vous l'avait annoncé en début d'émission, mon collègue Daniel nous a quittés pour le reste de l'émission. Vous serez donc avec moi, Marc Bouchard, jusqu'à la fin. Bien sûr, ça ne nous empêchera pas de parler d'actualité automobile et de vous parler. On attend bien sûr vos appels pour répondre à vos questions. Questions sur n'importe quel modèle d'automobile, si ça vous intéresse, bien entendu. Mais questions aussi sur la réforme de la sécurité routière qui a été présentée cette semaine par le ministre André Fortin à l'Assemblée nationale. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle les numéros pour nous rejoindre. Alors, si vous êtes à Montréal, c'est le 514-790-9850. Pour les gens de la région de Québec, c'est le 418-670-9330. Et pour les gens de partout ailleurs au Québec, c'est le 1-866-790-9850. Alors, on attend vos appels pour parler de n'importe quoi d'automobile, mais comme je vous l'ai mentionné, essentiellement pour parler de la réforme de la sécurité routière. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est extrêmement important qui a été présenté vendredi dernier. 86 amendements qui ont été présentés par le ministre Fortin. On veut savoir ce que vous en pensez. Il y a de ces amendements qui vont vous toucher directement. Celui que l'on connaît le plus, en fait, qui est le plus important probablement pour nous, c'est que l'on passe désormais la loi sur les pneus d'hiver obligatoires du 15 au 1er décembre. Honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus logique. Ça va permettre d'une part de s'assurer que tout le monde a des pneus d'hiver au moment où la température est froide, même si on n'a pas de chute de neige. Et je pense que ça va aussi permettre une meilleure planification pour les magasins qui vendent ces pneus-là et qui sont capables de mieux gérer ça. Donc, c'est dorénavant, mais c'est pas encore adopté, il faut le préciser là, mais en théorie, on va donc attendre le 1er décembre pour avoir les pneus d'hiver obligatoires. C'est une première. La deuxième, il faut le rappeler, on passe les amendes pour les gens qui ont des textos qui étaient de 80 à 100 $, ça va maintenant de 300 à 600 $, mais on conserve les 4 points. Les récidivistes de l'alcool qui vont être tenus d'avoir un antidémarreur éthylométrique pour le reste de leur vie dans leur véhicule. Et une mesure qui a fait sourciller bien des gens depuis qu'on en a parlé, c'est celle des apprentis conducteurs qui vont être obligés, vont être interdits de conduite, si vous me permettez, entre minuit et 5 heures du matin. Alors, on a Mathieu en ligne. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Dans le fond, moi je trouve que c'est des plus ou moins bonnes mesures. Mais dans le fond, c'est plus c'est une voiture que je voulais vous parler parce que je suis en processus de m'acheter une belle voiture. Est-ce que je peux vous en parler?
Ah, bien sûr, ça me ferait plaisir, mon cher.
C'est ça. Dans le fond, en ce moment, j'ai une Mazda GX, un petit modèle de Mazda 3. Puis j'aimerais ça savoir dans la même gamme de voitures, genre petit coupé économique puis tout, quel genre de voiture je pourrais m'acheter, si je vais en achat ou en location, parce que je fais beaucoup de kilométrage, puis je pense qu'un achat ça serait mieux, mais je voudrais vous entendre là-dessus.
Ben, effectivement, si vous faites beaucoup de kilométrage, l'achat est toujours une meilleure solution parce qu'en location, malheureusement, vous devez payer les surplus. Ça, je pense que c'est réglé assez facilement. D'autre part, écoutez, je sais pas, c'est en quelle année votre Mazda 3 GX actuel?
C'est en 2015.
OK, donc il est assez récent, vous avez la nouvelle génération. Bien sûr, les nouveaux Mazda 3 sont, à mon avis, plus intéressants parce qu'on leur a donné une nouvelle technologie qui s'appelle le contrôle vectoriel de la force. Ça n'a rien à voir avec Star Wars, là. C'est vraiment une façon de conduire qui est différente, qui les rend un peu plus dynamiques. Et avec la technologie SkyActiv, vraiment, ça diminue considérablement la consommation. Alors ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Il y a bien sûr les Honda Civic qui sont toujours des incontournables dans ce monde-là, surtout qu'on les a beaucoup, beaucoup améliorés. Le petit moteur 1.5 turbo est assez fantastique à mon avis. Et si vous optez davantage pour un côté plus, je vous dirais, un peu plus confortable, il y a la Hyundai Elantra qu'il faut prendre en considération. La Hyundai Elantra qui arrive avec un châssis très, très rigide, qui encore une fois est doté d'un bon moteur relativement économique. Alors, sincèrement, ça pourrait être trois excellents choix, trois voitures compactes qui sont à peu près dans la même échelle de prix.
Donc, à long terme... Ce qui me faisait peur, c'est à long terme, côté rouille Mazda, puis côté ingénierie Honda, il y a peut-être moins de réparations que les autres, je me demandais pour ça.
Ben, effectivement, Honda... Mazda a réglé ses problèmes de rouille là, ce n'est plus un problème. D'ailleurs, ils ont des garanties maintenant illimitées 5 ans. Bon, tu sais, ils ont toutes sortes de garanties, ils ont vraiment corrigé ce problème là. Dans le cas d'Honda, ben c'est fiable, ça coûte pas très cher en entretien. Et dans le cas de Hyundai, faut pas négliger les Hyundai qui sont, comme je vous l'ai dit, de plus en plus performantes. Je vous rappelle que les Coréens comptent parmi les meilleurs actuellement au niveau du classement des voitures, au niveau de la fiabilité, au niveau de l'indice de qualité initiale. Alors, dans les faits, c'est trois excellents choix. Bien sûr, c'est trois voitures qui ont des personnalités de conduite différentes. Je pense qu'il faut les essayer, voir ce que c'est. Mais dans l'ensemble, au niveau de la valeur et de la capacité à durer longtemps, je pense que dans les trois, vous allez trouver quelque chose qui devrait vous plaire.
Parce que j'ai trouvé vraiment un plaisir à conduire ma Mazda 3. J'ai vraiment du plaisir à conduire cette voiture-là.
Alors, écoutez...
Je pense que plaisir avec je sais pas
ça. Je pense que vous seriez mieux à ce moment-là. Si vous êtes avec Mazda, je vous invite à retourner avec Mazda. Alors, je vous remercie de votre appel. On va maintenant passer à Stéphane. Stéphane, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ma femme avait un Buick encore en 2016, puis elle aime pas du tout, puis là j'aimerais le changer. Mais j'aimerais savoir ça serait quoi. Je regarde le Mazda le CX-5 ou je sais pas dans quel modèle aller dans les petites vues là.
Ouais, mais en fait, si vous me parlez du CX-5, vous le comparez pas directement au Buick Encore, parce que le Buick Encore est un plus petit véhicule, il est plus, je vous dirais, de la taille du CX-3 ou à peu près, et il est évidemment beaucoup plus luxueux. Donc, ça dépend ce que vous visez. Est-ce que vous visez quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus confortable, plus luxueux? Là, c'est vous qui savez.
On veut quelque chose de plus gros un peu là, que le CX-5, que l'encore.
Ben écoutez, le CX-5 a des qualités inévitables et incontournables. Je pense qu'on c'est un véhicule qu'on aime bien parce qu'il est agréable à conduire, surtout la nouvelle génération qui arrive avec des nouvelles propriétés. Mais c'est pas le seul cependant. Il y a de plus en plus, vous savez, ça dépend ce que vous faites. Est-ce que vous faites un peu de remorquage avec ça? Est-ce que vous faites un peu d'hors-route?
Non, on fait pas d'hors-route. C'est parce que nous, on reste en campagne puis c'est souvent des bancs de rafale puis... Vous gardez des tapis. C'est tout le temps glacé. On va prendre traction intégrale, là, mais c'est ça, on veut savoir. Puis parce que le bureau qui a pas une bonne valeur de revente non plus. Là, fait que on se demandait dans quelle vue, dans la grosseur du CX-5 qu'on pourrait aller.
Ben écoutez, la compétition est extrêmement féroce là-dedans. Il y en a dans à peu près toutes les compagnies. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Les Coréens sont des bons choix de ce point de vue-là, je vous dirais. Le Ford Escape peut en être un aussi, peut-être un peu moins confortable cependant. Moi, je vous dis, le CX-5, si vous voyez le CX-5 et qui fait votre affaire, c'est aussi un excellent choix. Je pense que là-dedans, vous vous trompez pas beaucoup là avec ça. Vous aurez pas le même luxe que dans le Buick, mais vous allez certainement avoir plus de plaisir de conduite.
Ah, parfait. Ben, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Alors, Louis-Charles est en ligne. Louis-Charles, bonjour.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien vous-même.
Oui. Écoutez, moi, c'est juste pour vous parler de la nouvelle réglementation.
Oui.
Oui, moi, je travaille sur la route. Je fais 60 heures semaine sur la route, autant dans la région de Montréal que ça arrive nord, que ça arrive sud.
OK.
L'affaire du téléphone au volant, je trouve que c'est encore pas assez sévère.
OK, donc, vous voudriez qu'on soit plus sévère?
Oui, je m'explique. Sur la rive nord, l'autre fois, juste par simple plaisir, on s'est amusé à compter le nombre d'accidents qu'il y avait sur la rive nord pendant que mon partner était sur la rive sud.
OK.
J'avais trois fois plus d'accidents sur la rive nord que sur la rive sud. Et pendant tout ce temps-là, si je regarde un véhicule sur deux que je regardais, monsieur ou madame, ou le jeune ou la jeune, ou whatever, était sur son téléphone, soit en train de texter, soit en train de Facebooker, soit en étant au téléphone. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Le téléphone, c'est une super belle technologie, c'est super utile, mais au volant, on a besoin d'avoir les deux mains sur le steering et de regarder en avant. Moi, je pense honnêtement que le côté montant, oui, mais je pense que côté point, il faut le monter, il faut faire peur au monde pour qu'il arrête. Les Bluetooth, ça existe, il y en a dans tous les chars, t'as pas besoin d'avoir ton téléphone dans les mains. La preuve, j'en suis sur un, j'ai un Mazda 2300 2007, j'ai fait installer une radio Bluetooth pour pas avoir mon téléphone dans mes mains.
Ben mon Dieu, bravo. Vous allez quand même être content d'apprendre que maintenant, ça ne touche plus que les téléphones, mais ça touche tous les appareils, à part les GPS, là, parce qu'il y a des gens qui se sont fait attraper aussi avec des liseuses électroniques et tout ça. Mais vous avez parfaitement raison. On devrait être plus sévère, je suis d'accord. Il y a même des provinces ou des États aux États-Unis où on envisage la saisie immédiate du permis de conduire quand on se fait arrêter. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, effectivement, mais...
Vous allez à la place pour le téléphone au volant, le char, il est
Oui, effectivement. Non, vous avez parfaitement raison. Là, c'est un excellent point, Sylvain. Louis-Charles, merci beaucoup. Alors, on a Sylvain maintenant qui est en ligne. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je me suis acheté un Dodge Journey 4x4.
Oui.
Parce que je peux faire la route de la Côte-Nord avec les acteurs Jean Lévitibi.
OK.
Puis je me demandais si j'avais fait un bon choix.
Oui, le Dodge Journey, quel moteur vous avez, excusez?
3.6.
Le 3.6. Écoutez, c'est sûr que c'est un véhicule qui est pas un mauvais choix. C'est un véhicule qui est un petit peu dur sur la consommation de carburant. Vous allez vous en rendre compte, surtout quand vous allez être en ville. C'est un véhicule là qui on sent qu'il est gourmand, mettons. Sur la grande route, il fait le travail. Il y a un rouage intégral qui est tout à fait correct. Et c'est surtout un véhicule qui est confortable et relativement spacieux. C'est pour ça qu'on l'achète. Et je pense que de ce point de vue-là, vous avez fait un excellent choix.
Bon, c'est exactement pour ça que j'ai acheté le confort, étant donné que je suis souvent justement sur la route.
OK. Ben écoutez, vous avez fait un très bon choix. Je pense que vous le regretterez pas et vous allez voir beaucoup d'espace pour transporter vos choses. Alors, merci beaucoup de nous appeler. Alors, on a Colette maintenant. Bonjour, Colette. Colette?
Je veux savoir la Micra de Nissan, qu'en pensez-vous?
Ah, écoutez, la Micra de Nissan, c'est un petit véhicule très intéressant pour quelqu'un qui est en ville. C'est évidemment pas le véhicule le plus puissant. C'est un véhicule qui est très économique.
Ouais.
C'est un véhicule qui est amusant à conduire aussi. Je sais pas vous quel usage vous en faites. Vous demeurez en ville?
En ville seulement.
Bon, écoutez, c'est un petit véhicule tout à fait agréable. C'est un véhicule qui, jusqu'à maintenant, a fait ses preuves. Il est vendu partout dans le monde. C'est un véhicule qui a pas de problème du tout, qui se comporte très bien, comme je vous l'ai dit, qui est assez économique. 109 chevaux, c'est pas avec ça que vous allez perdre votre toupette sur le banc d'en arrière, mais ça demeure quand même un véhicule qui est très agréable et très amusant. En fait, c'est un véhicule qui est tellement le fun à conduire qu'ils en ont fait une série de courses, puis ils ont même pas changé les moteurs ni rien. C'est le même genre de véhicule, ils ont juste modifié l'intérieur pour le rendre plus sécuritaire. Alors, c'est un petit véhicule qui est vraiment, vraiment agréable et qui est ultra fiable, qui a pas de problème, mais la beauté de la chose, c'est que ça demeure un des véhicules les moins chers sur le marché actuellement.
Oui, c'est ça.
Fait que c'est aussi un élément à considérer, mais oui, vous vous trompez pas beaucoup avec une Micra. Bien entendu, écoutez, il y a le sacrifice que c'est un petit véhicule, donc il y a un certain inconfort là quand on est dans des routes un peu plus bosselées. Les nids de poule, on les sent pas mal au volant d'une Micra, mais dans l'ensemble, c'est un petit véhicule qui est très, très agréable à conduire.
Ah ben, vous êtes bien aimable, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous.
Merci beaucoup, Colette.
Au revoir.
Au revoir. Alors écoutez, on va faire une petite pause et au retour, on vous revient, on répond encore à vos questions et on continue de parler de sécurité routière.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Ouais, Daniel qui nous a quittés en début d'émission et qui est malheureusement n'est plus avec moi. Alors c'est Marc Bouchard plutôt pour répondre à vos questions, pour discuter avec vous de la réforme de la sécurité routière. Je vous redonne les numéros pour nous rejoindre. 514-790-9850 à Montréal, 418-670-9330 à Québec et partout ailleurs au Québec, le 866-790-9850. On parle automobile, vous avez des questions de n'importe quelle nature, vous nous appelez. On parle de sécurité routière aussi et on offre Francis en ligne. Bonjour, Francis.
Oui, bonjour. Moi, j'ai un Camaro SS 2002, 35e anniversaire, jamais sorti l'hiver, 55 000 km, un seul propriétaire. Je me demande combien est-ce que je pourrais espérer avoir en échange. Moi, je pense de changer ça pour un Charger 17 ou 18, là,
ouais.
6.4.
Écoutez,
combien je pourrais espérer avoir en échange pour ça ou combien je pourrais espérer avoir en le vendant à un particulier?
Ben, ça, c'est difficile à évaluer parce que vous me parlez d'un véhicule qui a une valeur mécanique, c'est-à-dire que la voiture, elle a cet état-là et elle vaut tel prix, mais vous me parlez d'une Camaro SS 35e anniversaire, donc c'est aussi une édition particulière, donc il y a une prime généralement qui est associée à ça. C'est un peu difficile de vous donner un guide là-dessus parce que, comme je vous dis, on ne sait pas, en tout cas moi, je suis pas en mesure de vous dire exactement quel est l'intérêt des gens pour ce modèle-là de façon spécifique. C'est pas facile à évaluer. Moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de parcourir des annonces. Il existe un paquet d'endroits et de comparer la nature de... Parce que, comme je vous dis, vous avez une voiture qui est quasiment une voiture de collection. Et à ce moment-là, ça, c'est très difficile à évaluer parce que je connais pas la demande pour ce type de produit-là. Alors ça, je peux pas m'avancer vraiment. Mais je vous invite à aller consulter les sites... Écoutez, c'est sûr que vous pouvez toujours consulter des sites ordinaires, là, comme le Canadian Black Book, pour avoir une idée de la valeur mécanique de l'auto. Mais pour la valeur de collection, la valeur du 35e anniversaire, je pense que ça a un autre élément. Et moi, je vous invite à aller consulter des sites spécialisés. Vous allez avoir une bien meilleure réponse qu'avec moi, là. Moi, je vous dirais n'importe quoi. Puis, à la limite, je vais vous le dire un gris pas cher, puis moi, vous l'achetez moi-même. En tout cas. Oui.
OK. Je voulais savoir ce que vous pensez un Charger 6.4. C'est quoi les qualités hivernales? Quelles seraient les qualités hivernales d'un véhicule comme ça? Moi, je suis habitué aux tractions arrière. Je suis habitué à ces grosses voitures-là. Je me demandais ce que vous pensiez de ça.
Écoutez, c'est pas des voitures pour l'hiver. Oui, on est habitué, on est capable, mais on parle de voitures extrêmement puissantes, extrêmement lourdes. Ça se comporte l'hiver, mais c'est sûr que du point de vue de la sécurité, si on avait une note à donner sur 10, ce serait probablement un 4. Si on parlait de plaisir, ce serait probablement un 9. Alors, ça dépend évidemment de ce que vous visez. C'est certain que c'est des véhicules qui sont moins sécuritaires en hiver parce que vous l'avez dit, ce sont des propulsions la plupart du temps. Les gros véhicules puissants. Donc, si vous retrouvez des véhicules à propulsion, c'est une autre affaire. C'est sûr que ça devient à ce moment-là des véhicules qui sont quand même utilisables en hiver, qui sont agréables à utiliser en hiver, mais avec lesquels faut vraiment investir beaucoup dans des bons pneus d'hiver, s'assurer qu'on a une bonne maîtrise du véhicule. Alors, je pense que, écoutez, c'est pas le meilleur choix en hiver, mais c'est des véhicules évidemment super le fun à conduire. Là, ça, c'est pas moi qui va vous obstiner là-dessus. On va vous souhaiter un bon hiver. On a Janine avec nous. Janine.
Oui, bonjour. On pense à changer d'auto. Et puis, j'hésite avec la Micra Nissan et la Yaris Toyota.
Vous avez deux bons véhicules. Deux véhicules qui sont un petit peu différents. Je vous avoue que moi, j'ai un faible pour la Micra.
Oui.
Pour différentes raisons. Là, parce qu'elle est très agréable à conduire. J'en ai parlé d'ailleurs à une dame il y a quelques minutes.
Oui.
C'est un véhicule que moi, j'aime beaucoup. Par contre, la Yaris a pour elle une très, très grande fiabilité. Par contre, en matière de consommation, elle est moins économique que la Micra ne peut l'être. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Ceci étant dit, ce sont deux véhicules qui se conduisent de façon assez différente. Évidemment, il n'y a rien comme un essai pour le savoir. Il y a aussi l'espace intérieur qui est un peu différent. Moi, je vous dirais d'aller les voir comme il faut. Ça dépend quel Yaris vous visez. Moi, je vous avoue que j'ai un faible pour la Nissan Micra, mais ça, c'est très personnel. Ah,
parce que nous autres, ça fait plusieurs années, au-dessus de 25 ans, qu'on a une Camry. Puis on est à la retraite, on veut prendre plus petit, parce qu'on fait pas beaucoup de kilométrage.
Ben, voyez-vous, moi, je vous dirais, plutôt que d'aller vers une Yaris, qui est vraiment une très petite voiture, passer d'une Camry, moi, j'irais magasiner une Corolla. Qui est l'étape juste en dessous de la Camry, qui est peut-être un peu plus grosse que la Yaris, mais qui va vous offrir beaucoup plus de confort et beaucoup plus de polyvalence, à mon avis. Moi, j'irais davantage vers la Corolla que vers ces petits véhicules-là.
Vous n'avez pas un autre choix que la Corolla, hein?
Ben, en fait, écoutez, c'est parce qu'on parlait de Toyota puis que vous sembliez aimer la Toyota. La Toyota est, à mon avis, un bon choix. Sinon, ben, si vous aimez le Nissan, il y a la Sentra, mais la Sentra, je suis peut-être un peu moins fan de cette voiture-là. Je vous inviterai aussi à peut-être passer chez les Coréens, aller voir de qu'est-ce qu'on peut vous proposer là-bas, parce que là aussi, on parlait de l'Elantra tantôt. C'est un bon véhicule. C'est un véhicule qui est intéressant aussi, qui est assez spacieux, qui est très solide. Peut-être un petit peu plus cher par rapport, ça dépend des options que vous voulez mettre à l'intérieur. Mais moi, comme je vous dis, comme vous êtes habitué avec une Toyota, dans une Corolla, vous ne seriez pas dépaysé, mais pas du tout. Vous garderiez la même fiabilité et vous auriez un véhicule qui serait plus spacieux, à mon avis, plus confortable que la Yaris ou la Micra pourrait l'être.
Ah oui?
Oui.
Parce que moi, je regarde la sécurité en premier, après ça, le confort. Puis,
Mon Dieu. En matière de sécurité, écoutez, les voitures sont maintenant sécuritaires, mais évidemment, si vous avez une voiture qui fait 30 cm plus long, en général, elle va vous permettre d'être un peu plus résistante. De ce côté-là, en tout cas, c'est sûr que les petites voitures, c'est des voitures urbaines essentiellement. Hein, fait que ça dépend de l'usage que vous en faites. Je vous remercie beaucoup, Janine. Alors, on a Stéphane qui est avec nous.
Oui, bonjour, Marc.
Bonjour.
pas très sexy. J'achète une voiture Touring, pas très populaire au Canada ni en Amérique du Nord. Je suis hésitant entre la Audi A4 Allroad et la BMW 330 Touring. J'ai essayé les deux. Je suis pas mal amoureux que le look de la Audi intérieure, la finition incroyable, mais la souplesse du moteur BM. Bref, votre opinion par rapport au choix?
Écoutez, moi, je suis un fan de la A4 Allroad. Au-delà, j'aime beaucoup les BMW, là, faut pas mal interpréter mes propos, là. J'aime beaucoup le plaisir de conduite, comme vous avez parlé de la souplesse du moteur BMW, de sa nervosité, de la façon dont il se comporte. C'est absolument génial. Mais il y a quelque chose dans la Audi Allroad qui vient avec sa personnalité. On se sent comme plus en confort, on se sent plus en sécurité. C'est un véhicule qui, pour moi, affirme plus le genre de personnalité touring qu'on a voulu lui donner. Alors moi, j'aime la Audi, d'autant plus que les nouvelles Audi ont vraiment augmenté leur qualité, tant au niveau de la finition que de la motorisation et de la fiabilité aussi. Alors honnêtement, moi, j'irais davantage vers Audi. Vous avez essayé les deux, vous avez vu les qualités et les défauts de chacun. Comme vous avez mentionné aussi, l'intérieur de l'Audi, les cockpits, les nouveaux cockpits Audi sont absolument spectaculaires. Honnêtement, j'ai... La BMW est un excellent choix, mais j'ai un faible pour Audi. Probablement que, je sais pas, c'est le côté, je sais pas, on dirait que la personnalité est mieux assumée du côté d'Audi. La voiture qui est un peu passe-partout, qui est un petit peu plus extrême que une berline. Alors, j'aime beaucoup ce côté-là du Allroad.
J'avais été un peu déçu avec la 2.7 turbo à l'époque, là, sur une plateforme A6, mais j'avais adoré le look. Et puis, la A4 est un peu plus spacieuse que l'époque.
Je pense que c'est un beau bon produit. Effectivement, moi, je vous dis, je suis Audi sur toute la ligne là-dessus. Alors voilà, merci beaucoup de votre appel. Alors, on fait une autre petite pause et on vous revient après la pause pour répondre encore à vos questions et parler de sécurité routière.
Au réseau Cogeco, Auto 360,
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Alors, on est de retour à Auto 360. On continue de prendre vos appels. On a Jacques en ligne. Bonjour, Jacques.
Oui, bonjour. Bon après-midi.
Merci.
On est à regarder pour acheter une deuxième voiture, un peu été, sur une Pontiac G7 GT 2008 avec 60 000 kilos au compteur. Et on se demandait si c'était un bon achat par rapport qu'on a entendu parler. Il y avait des problèmes de coulage au niveau du moteur, 3.5, puis vielle et tout. On voudrait savoir qu'est-ce que ça peut ressembler comme achat.
Ben effectivement, c'est un modèle qui est en 2008 avait des petits problèmes au niveau de la motorisation où il y avait effectivement des fuites. J'imagine que si c'est un 2008, cette fuite-là a dû être réparée depuis, parce que évidemment le moteur roule toujours. Donc théoriquement, bien sûr, ça mérite une bonne inspection. C'était pas en soi un mauvais modèle, au contraire, c'était plutôt même agréable à conduire. Sauf qu'effectivement, petit problème de fiabilité. Donc oui, une bonne inspection. Évidemment, faut pas payer ça trop cher parce que au stade où on est rendu, on parle quand même d'un modèle qui a eu 9 ans ou presque. C'est évidemment pas quelque chose...
Environ alentour de 9 000 ou 10 000, c'est une décapotable.
Ouais, ben là oui, peut-être que effectivement, mais faire une bonne inspection, je pense que c'est surtout ça la sécurité. Vérifiez aussi le toit. Le toit avait un petit peu tendance à couler dans certains cas. Donc vérifiez comme il faut pour tous ces détails-là. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule, comme vous dites, c'est un véhicule d'été, c'est un véhicule qui va vous servir par des belles journées pour aller vous faire vanter un peu. Je pense que c'est pas en soi un mauvais choix, mais une bonne inspection s'impose. Ça devrait toujours être le cas, là. Mais dans ce cas-là, il y a effectivement des problèmes assez spécifique à la moto au moteur. Alors, ça vaut peut-être la peine de vérifier ce côté-là.
Ça reste quand même un bon véhicule, plutôt fiable, à part des...
Ouais, ça reste un bon véhicule. C'est un véhicule surtout qui est confortable, alors c'est parfait. Alors, on a maintenant Jean-François. Bonjour, Jean-François.
Bonjour. Je voudrais avoir votre opinion. Si vous pouvez comparer une Audi A4 Allroad et puis une Kia Stinger en termes d'insonorisation et de confort sur route dégradée, c'est pour voyager entre Montréal et Baie-Comeau.
Eh mon Dieu. Non, là, on parle pas du tout. En tout cas, à mon avis, on parle pas du même véhicule, pas du tout. La Kia Stinger est un véhicule intéressant. Je vous admets que je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer aussi longtemps que j'aurais voulu et que ça viendra au cours des prochaines semaines. Ce qu'on a ce qu'on a entendu de la part des gens qui l'ont testé un peu plus, c'est que c'est un véhicule intéressant, mais c'est davantage un véhicule sportif. C'est davantage un véhicule qui a une connotation un peu plus dynamique. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile à envisager pour des routes comme Montréal-Bécomo. Évidemment, le Audi Allroad, lui, est conçu davantage pour ça. Il y a une plus haute garde au sol. Il y a, au départ, un intérieur qui est beaucoup plus luxueux, beaucoup plus confortable. Les suspensions sont aussi mieux adaptées à des routes un peu plus dégradées. Honnêtement, vous seriez beaucoup mieux à mon sens, avec le Audi A4 dans un contexte comme celui-là. En plus, vous avez un rouage quattro qui arrive avec le Allroad, ce qui n'est pas le cas de la Stinger, qui n'a pas le même type de rouage, vous l'aurez compris. Donc, je pense qu'on parle de deux véhicules assez différents. Pour des longues randonnées de cette nature-là, moi, j'opterais pour le Allroad. Faut dire, je l'ai dit précédemment, je m'en cache pas, que j'ai un faible pour ce véhicule-là. La Stinger est un excellent véhicule, mais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sportif.
Quand la nouvelle Buick Regale GS sortira, si vous voulez nous dire votre opinion entre la Audi Allroad puis cette nouvelle-là, là, encore une fois, au niveau confort et sonorisation.
Ouais,
merci beaucoup.
Ben, ça me fait grand plaisir. Alors, on vous souhaite un bon magasinage et vous avez des bons choix de véhicules, il faut que je vous le dise. Bon. Alors, on a Marjolaine avec nous. Bonjour, Marjolaine.
Oui, bonjour, messieurs. Moi, je suis tombée en amour un peu avec le tout nouveau Jeep Compass. Qu'en pensez-vous?
Ah, mon Dieu, un bon petit véhicule qu'on a beaucoup, beaucoup amélioré. Je pensais que vous étiez pour dire que vous étiez tombé en amour avec moi. Ça m'aurait gêné un peu.
je vous connais pas.
Non, sérieusement. Le Jeep Compass, c'est... Le Jeep Compass est un véhicule qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré. On a amélioré la totalité, en fait, du véhicule. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui, au départ, avait une transmission qui était un peu plus ordinaire. On a considérablement modifié ça. On arrive avec une nouvelle transmission qui est plus efficace. On a quand même des capacités hors-route intéressantes parce que ça continue d'être un Jeep quand même, là. Donc, on conserve cet élément-là. On arrive aussi avec le petit moteur 2.4 litres, 172 chevaux, qui est amplement suffisant.
Oui.
Donc, oui. Moi, c'est un véhicule que j'ai pas trop de misère à recommander. Oui. Écoutez, est-ce que je vous ai dit, excusez-moi, là?
Oui, vous parlez... en amour.
Non, ben, en fait, c'est oui. Pas que je suis en amour. C'est que c'est un véhicule qui est efficace, qui fait le travail pour lequel il est fait. C'est un véhicule, ce qui est agréable, en fait, c'est que c'est un petit Jeep, avec ce que ça implique. Je me suis trompé en passant pour les chevaux, c'est 180 chevaux, pas 172, là.
Je vais vous prendre une grosse remorque, vous prenez ça, là.
Mais comme je vous dis, c'est un petit véhicule qui est intéressant, qui s'est beaucoup, beaucoup amélioré en termes de qualité de finition aussi. Moi, c'est pas un véhicule que j'ai de la misère à recommander, bien qu'évidemment, Jeep a pas nécessairement la meilleure cote en matière de fiabilité, mais dans le cas du nouveau Compass, on n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Ouais. Et c'est un véhicule qui, pour le moment, semble très bien se débrouiller, là.
Merci. Est-ce que je pourrais savoir, est-ce que c'est, c'est ça, là, vous m'avez dit qu'il y avait eu des améliorations, tout ça, mais moi, je le connaissais pas, mais c'était tout nouveau modèle, ça, de 2017?
En fait, il existe, le Jeep Compass existe depuis 2009-2010, mais on a remodelé, on l'a complètement remanié pour le modèle 2018. Okay. Alors là, on arrive vraiment avec un véhicule qui est plus fini un peu et qui est plus agréable.
Une dernière question sur ce modèle-là. Est-ce que je pourrais savoir, est-ce que je devrais attendre le 2018? Ça s'en vient bientôt.
Oui, définitivement.
2017.
Oui, définitivement. Ouais. Si vous pouvez attendre, le 2018 est un meilleur choix. Vous allez vous retrouver avec une meilleure transmission. Oui, ça vaut la peine, définitivement.
Oui, OK, parce que je l'aime, parce qu'il y a hatchback, tout ça. Moi, j'avais une Matrix avant. Toyota,
ah, mais là, on parle.
Non, mais j'avais ma Matrix, puis tu sais, quand t'es quand même assez grosse, là, avec, elle faisait hatchback, tout, et j'ai deux gros labradors, mais
Ils vont être heureux dans le Compass, c'est sûr. Il n'y a pas de problème.
C'est parce que au niveau de la hauteur, dans l'auto, je trouve que, en tout cas, j'étais à l'aise quand je me suis assise dedans. Je voyais très bien toutes mes angles morts, tout et tout. Par les fenêtres en arrière, partout. Ouais. Et puis, écoutez, je conduis un 3500, là, dans le fond, là, tu sais.
Ouais, c'est ça. Mais écoutez, Marjolaine.
Mais c'est parce que la Toyota, la RAV4, là.
Ouais. Ben ouais. Ça c'est un autre bon véhicule, mais c'est pas le même prix. Alors écoutez Marjolaine, vous allez m'excuser, on va devoir passer un autre appel parce qu'on en a plein des gens, les lignes sont pleines, les gens nous attendent. Alors merci Marjolaine d'avoir appelé. Mario, c'est à vous.
Oui, bonjour, j'appelle pour une voiture usagée. Moi j'ai un œil sur une grave, c'est Bling limité 2004, c'est pas jeune, mais en parfaite condition, pas une grande de rouille, 105 000 kilos. L'information que j'ai là-dessus, c'est que ça l'air bon partout que j'ai regardé, là. Sauf que j'ai vu que 2000 à 2002, ils ont eu des problèmes de moteur. C'est un 2.7. Je sais pas si vous avez des informations là-dessus. C'est bon encore? Ou
Écoutez, moi, je peux pas vous dire que je suis un fan du Sebring. Le Sebring a eu sa part de problèmes à plusieurs, dans à peu près toutes les générations. On a fini d'ailleurs par l'abandonner. C'est un véhicule qui était pas nécessairement d'une grande fiabilité tout le temps. C'est un véhicule dont le châssis est un peu mou. Je suis pas un fan de ce véhicule-là. Il était beau, je vous admets qu'il avait un beau look, mais en termes de fiabilité, c'est une autre affaire. Par contre, là, vous me parlez d'un modèle 2002 qui a 102 000 kilomètres.
2004,
mais qui a quand même 102 000 kilomètres. Écoutez, c'est un véhicule qui est quasiment neuf, là.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de rouille, là.
Alors, écoutez, si vous avez un bon prix, allez-y. Vous n'avez pas grand-chose à perdre avec ça. Mais comme je vous dis, c'est sûr que c'est pas des véhicules qui étaient d'une grande fiabilité, mais il n'y avait pas un problème spécifique, là. C'était une succession de petits problèmes qui se suivaient. Okay. Alors moi, je pense que c'est pas en soi un mauvais choix, mais faut pas payer ça trop cher, là. C'est le genre de véhicule qu'il faut magasiner un peu fort et qu'il faut surtout s'assurer de très bien faire inspecter quand on achète ça.
C'est sûr qu'on va se faire inspecter, mais disons, je paye 3 400, là, je l'arrête pour 3 400, c'est trop, c'est
pour même. Non, vous êtes pas mal dans les prix, là. Comme je vous dis, c'est dur à dire parce que vous êtes pas mal dans les prix. Vous alentours de 3 000 $, là. D'après moi, vous êtes pas mal dedans, il n'y aura pas de problème.
C'est pas vraiment le mauvais achat, c'est juste que m'en faire vérifier comme faut, si tout est beau, ben quand même, ça ne devrait pas si mal.
Ouais, exactement. Alors, merci Mario. Alors, Christian, on a Christian qui est avec nous. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour. Moi, j'aimerais connaître ton opinion au sujet des Chevrolet Cruze diesel 2014 et aussi si l'avenir des diesels à long terme est en danger.
Est-ce que l'avenir des diesels est en danger? Ben probablement, parce que il y a beaucoup de villes et un peu partout maintenant qui ont décidé d'interdire le diesel et on veut limiter le diesel. Ça c'est vrai partout au monde. Ceci étant dit, c'est pas un danger immédiat, c'est pas un danger qui va se traduire dans les prochains mois. Là, on parle de dans plusieurs années. Alors c'est pas quelque chose qui pour le moment est extrêmement préoccupant. Quant à la Cruze diesel. C'est un véhicule qui est très intéressant, que moi j'aime beaucoup. La Cruze, c'est un peu la mal-aimée chez Chevrolet dans toutes ses déclinaisons. Mais c'est une auto qui en offrait beaucoup pour le prix, qui en offre beaucoup pour le prix. C'est une auto qui est spacieuse, c'est une auto qui est intéressante, c'est une auto qui est agréable, qui est bien pensée, qui est bien finie, qui a une bonne ergonomie. C'est l'auto qu'on oublie souvent de recommander, mais qui pourtant a de bien belles qualités. Et en motorisation diesel, elle ne présentait pas de problème majeur. Elle était encore une fois tout à fait efficace dans ses démarches au niveau de l'économie d'essence, au niveau du couple, parce que c'est ça qui est la beauté du couple. Je pense qu'à ce niveau-là, si elle est en bon état, 2014, c'est quand même pas si vieux, je pense que c'est un bon achat dans votre cas-là.
OK, puis t'es pas au courant si il y aurait eu un cas de Dieselgate avec eux autres, parce que j'ai remarqué qu'ils en ont pas fait à toutes les années. Ça me semble qu'en 2015, il y a eu une pause, puis là, ils ont recommencé à en faire.
Ouais, mais là, on arrive avec un nouveau moteur diesel. C'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, on avait une motorisation diesel qui était, si vous voulez, inspirée de celle qu'il y avait en Europe, ailleurs. Et là, ben, on arrive avec un nouveau moteur. Et c'est ce qui fait qu'on a sauté une année. C'est le développement. Donc, c'est pas une question de Dieselgate, là. C'est vraiment une question de changement de technologie. Mais non, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Alors, merci, Christian. C'est maintenant au tour de Bruno. Bonjour, Bruno.
Bonjour, ça va bien?
Très bien vous-même.
Oui, en fait, on s'est acheté au mois de mai un Cherokee Sport 2014.
Oui.
Je me demandais si, à date, tout va bien avec le véhicule, mais je me demandais s'il n'y avait pas des points négatifs qui vont nous attendre prochainement. Parce qu'on se fait appeler tout le temps, quasiment à chaque mois par le concessionnaire pour pouvoir racheter le véhicule et aller dans le neuf. Fait qu'on se demandait si ça serait bien de faire le move ou pas.
Ben, écoutez, c'est sûr que les concessionnaires cherchent toujours des véhicules de cette nature-là parce que c'est des véhicules qui sont très, très en demande sur le marché de l'occasion. C'est des véhicules qui ont une belle personnalité, c'est des véhicules qui se revendent bien. Et bon, évidemment, parce que vous l'avez eu un bout de temps, ben vous avez absorbé la dépréciation. Fait que ça permet... moi, je vous dirais, si vous aimez votre véhicule, si vous avez pas de problème et si vous êtes toujours confortable avec puis que vous avez pas à investir rien dedans, ne vous garochez pas pour rien à aller changer de véhicule. Ça ne vaut pas la peine. Vous avez encore entre les mains un véhicule qui est tout à fait intéressant, qui a pas vraiment de problème majeur. Il y en a quelques-uns, c'est clair, mais je pense que dans l'ensemble, si vous êtes satisfait de ce que vous avez, ça vous donne absolument rien d'aller vers un nouveau véhicule.
Parfait. Ben, gros merci.
Ben, ça me fait plaisir. Alors, écoutez, on s'arrête pour une autre pause et on vous revient immédiatement. On continue de répondre à vos questions.
Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Ouais, Daniel qui nous a quitté au milieu de l'émission. Alors, c'est Marc Bouchard qui est avec vous. Et quand même, on a le plaisir de jaser ensemble un peu, parler d'automobile, parler de sécurité routière. Alors, on prend vos appels. On a déjà Michel qui est là. Bonjour, Michel.
Bonjour, Marc. Ça va bien?
Ça va très bien vous-même.
Oui, ça va. Merci. Puis, en passant, là, merci pour qu'est-ce que vous faites.
Ah, ça nous fait beaucoup, grand plaisir.
Vous aidez beaucoup de gens pour faire d'erreurs. Moi, j'ai une question pour vous, là.
Oui.
C'est pas pour tout de suite, c'est pour le printemps, mais là, j'ai eu un gain d'argent, puis j'ai trop rêvé d'une Mustang.
Oui.
D'accord, que j'adore toujours, mais et la Camaro qui ont sorti depuis 2011, si je me trompe pas, là.
Ouais,
le nouveau modèle. Je ferais de la misère entre les deux. Côté fiabilité, côté...
Écoutez, ça c'est la question, c'est la question qui tue ça.
Oui.
Ouais, ben en fait c'est parce que objectivement, du point de vue de la fiabilité, du point de vue de tout ça, c'est deux véhicules qui s'équivalent. Okay?
Ok.
Ça, ils sont à peu près pareils. Bon, il y a des options, il y a des motorisations différentes, mais dans l'ensemble, c'est deux véhicules qui vont vous procurer sensiblement le même genre de sensation, le même genre de plaisir de conduite, et c'est pour ça qu'on s'achète ce genre de muscle car là. La question, c'est comment vous allez vous sentir à l'intérieur. Je vous avoue que moi, je suis un vieux nostalgique. Fait que dans les muscle cars, mon favori, c'est le Challenger parce que je trouve que c'est celui qu'on a ramené le plus des années 60. Mais c'est probablement celui qui est le moins fiable et qui est le moins efficace du point de vue moderne. Alors, les nouvelles Camaro, les nouvelles Mustang sont définitivement des voitures beaucoup plus agréables à conduire, beaucoup plus faciles à apprécier aussi. Mais c'est vraiment deux conduites très, très, très différentes. Moi, la Camaro, je suis pas très grand. J'ai l'impression que je suis assis un peu trop enfoncé dans la voiture. Je trouve que la visibilité est pas très bonne. J'ai donc un faible pour la Mustang strictement à cause de ça. Pour le reste, c'est vraiment une question de choix. Ça dépend du moteur que vous choisissez et ça dépend de comment vous vous sentez à l'intérieur.
D'accord. Oui, la question est bonne. La Mustang, je l'ai essayé. La Camaro, je me suis pas assis dedans. Et puis, vous n'êtes pas le premier à me dire ça, là.
Ah non, la Camaro, c'est que la ceinture de caisse est très, très élevée. Alors, on a l'impression d'être assis dans un bain, presque.
Okay.
Comme je vous dis, c'est un feeling particulier. Les gens qui aiment les Camaro adorent cet élément-là. Moi, je vous avoue que c'est pour moi quelque chose qui m'a empêché d'apprécier. Alors, ben Michel, on va vous souhaiter un bon magasinage. On a Denise qui est avec nous. Bonjour, Denise.
Oui, bonjour, Marc. Moi, je voulais t'entendre parler à propos des garanties sur les voitures neuves.
Oui.
On est en train d'acheter un Chevrolet Colorado 2017 neuf et en signant les contrats, le directeur commercial nous dit « Prenez la garantie prolongée à 3 500 $ ». Là, je me disais « Ben voyons, il n'est pas déjà garanti 3 ans, 60 000 kilos. Est-ce que ça vaut la peine? »
Écoutez, ça dépend de l'usage, ça dépend comment vous voulez le garder longtemps, ça dépend d'un paquet de facteurs. Moi, je vous dirais qu'en général, les garanties prolongées, c'est très, très dispendieux pour ce que ça procure. Il y a aussi un élément qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il n'y a pas que votre concessionnaire qui peut vous offrir des garanties prolongées. Il y a des compagnies privées qui offrent des garanties prolongées aussi. Ça vaut souvent la peine de les magasiner. Et vous n'êtes pas obligé de la prendre immédiatement. L'avantage de la prendre immédiatement chez votre concessionnaire, c'est que vous pouvez la financer. Alors, c'est vraiment une question de choix. Chaque cas est individuel. En général, je vous dirais que c'est assez dispendieux par rapport à ce que ça procure. C'est pas habituellement nécessaire, mais évidemment, ça facilite la revente. Alors,
parfait.
Je vous souhaite...
ça facilite la revente. OK,
ouais.
Parfait.
On a Stéphane en ligne pour un dernier appel. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Marc. Super chronique, c'est bien intéressant.
Merci.
Moi, je fais beaucoup de kilométrage. Je donne des ateliers un peu partout. J'ai beaucoup de colis, de matériel. Et moi, je tripe sur la Honda Element. Un modèle qui a disparu depuis 2012, je crois, 2010.
Ouais, effectivement. Écoutez, Stéphane, je m'excuse, on va être obligé de vous couper. Il ne reste que 10 secondes à peine à l'émission. La Element, je l'aimais beaucoup. Malheureusement, elle n'a pas de relève. C'est dommage. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine. Daniel va de retour avec nous la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne semaine sur la route. Soyez prudents. C'était Auto 360. Bonne semaine.
Soyez là samedi prochain pour une autre édition d'Auto 360 avec Daniel Boudreau.